Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1. C'est l'heure aujourd'hui de retrouver notre spécialiste de l'histoire, l'écrivain Viateur Lefrançois, pour évoquer aujourd'hui la guerre entre les Indiens d'Amérique. Bonjour Viateur.
Bonjour.
Alors Viateur, de tout temps il y a eu des guerres entre les hommes, mais à l'arrivée des Européens en Amérique, les tribus indiennes se battent entre elles. Alors pourquoi se font-elles la guerre?
D'après les sociologues, la guerre faisait partie intégrante de la structure sociale et politique aussi des tribus indiennes. Donc, elle n'avait pas l'habitude de déclarer pour la guerre pour conquérir des territoires. Mais ils faisaient par exemple des fréquentes razzias ou des incursions de nature belliqueuse qui provoquaient un état de guerre presque permanent entre les tribus. Donc, c'est un peu... comment ça commençait finalement.
Et alors, quel genre de guerre menaient-elles ces tribus? Quel type de guerre, est-ce qu'on le sait?
Les professionnels, ils soulignent que c'est l'aspect ritualiste de la guerre entre les tribus indiennes. Ils démontraient aussi qu'elles participaient au fonctionnement de la société des Amérindiens. Donc, c'est peut-être plus complexe qu'on pensait finalement.
Et quelle fonction remplissaient ces guerres finalement?
Il y a un anthropologue, Philippe Jacquin, lui, qui pense que les batailles remplissent deux fonctions. Premièrement, ça apparaît comme un rituel nécessaire à la stabilité du groupe. Donc, ça empêchait la formation de communautés trop vastes et puis de l'émergence d'un État dominant. Comme par exemple, ça s'est arrivé avec les Iroquois qui étaient vraiment très puissants. Dans le sud de l'Ontario, puis l'État de New York. Puis de l'autre tribu ont toujours des ennemis, pas pour disputer des territoires ou des ressources naturelles, mais pour accomplir peut-être des rites qui étaient signifiants pour eux. C'est un peu l'idée.
Alors ces rites, c'est, j'imagine, pour les plus jeunes guerriers, certainement, le moment pour prouver leur valeur, en quelque sorte.
C'est ça, c'était les actes de guerre, un moyen pour les jeunes de prouver leur bravoure aux autres guerriers de la tribu, mais aussi aux autres tribus indiennes, parce que fallait qu'ils fassent peur un peu.
Alors c'était un passage obligé, c'était une pratique obligatoire parfois?
Il y a des tribus, oui, par exemple, chez les Indiens des Grandes Plaines, eux qui étaient vraiment les plus belliqueux, là, ça devient obligatoire pour les jeunes hommes. Ça permettait de prendre leur place au sein de la tribu. Leur exploit était relaté pendant les soirées. Ça contribuait à accroître leur prestige. Donc, c'est par la guerre, eux, d'autres, c'est par... maintenant, c'est la politique, c'est autre chose. c'est la littérature.
Et alors, vous évoquiez des rites qui accompagnaient la guerre. Quel genre de rite, alors?
Par exemple, des rites de nature religieuse. Parce que finalement, les sorciers étaient très puissants. En fait, ils se donnaient des pouvoirs. Ils se peignaient, par exemple, les guerriers se peignaient le visage, puis le corps aussi. Ils se réunissaient en groupe pour danser avec leurs armes et entonnaient des chants de guerre et tout ça. Donc, c'était moitié fête, moitié religieux. Donc, tout ça pour aller à la guerre, finalement.
Alors, ces fêtes, ces guerres, plutôt, elles existent donc dans le monde indien avant l'arrivée des Européens. Quelles sont les causes les plus fréquentes de ces affrontements?
C'est par exemple principalement les querelles pour une femme. C'est des fois parce qu'ils se... Quand ils attaquaient, ils prenaient des femmes. Eux, ils voulaient aller les chercher, donc... pour défendre un terrain de chasse aussi, ça c'est... c'est sûr, il y avait des pillages, s'il y avait plus de fourrure, puis il y avait plus de nourriture, on pouvait aller piller. Il y a la vengeance aussi, t'as tué mon frère, je vais aller tuer le tien, donc c'est un peu ça. Puis en même temps, il y avait la capture des hommes ou des femmes, des enfants aussi, qui quand il y avait besoin, parce qu'ils changeaient. En fait, ils savaient qu'il fallait qu'il y ait du sang nouveau. Donc, ils allaient chercher beaucoup de femmes pour dans les autres tribus. Ça amenait beaucoup de guerres.
Alors, ces captures, c'est même l'objectif premier de certaines de ces guerres?
C'était de ramener des scalps.
Des scalps,
aussi,
oui.
Exactement, oui. les prisonniers de guerre, ça, c'est, on les mettait à mort après vraiment de longues cérémonies de torture. Hein. Quand on lit Champlain, là, ça, on voit que la torture était, c'était épouvantable. Ouais. Quand les Hurons attaquaient puis amenaient des prisonniers, ben ils les torturaient. C'est la même chose que les Iroquois. Hein. Toutes les tribus faisaient ça. Puis d'autres, ben au lieu d'être tués finalement, ben ils étaient torturés, mais ils étaient adoptés aussi. Parce que ça permettait de remplacer les guerriers qui étaient morts pendant les razzias, hein, c'est ça.
Beaucoup de violence, mais alors ce qu'on imagine mal, c'est que ces guerres se faisaient vraisemblablement à pied, puisque ce sont les Européens qui ont introduit les chevaux en Amérique. Alors comment est-ce que les Indiens ont réagi?
Ben, en fait, c'était une cause, une nouvelle cause, hein. Donc pour faire la guerre, parce que le fait de posséder des chevaux, là, ça constituait vraiment une source vraiment de prestige, hein, au sein de la tribu. Par exemple, d'après les estimations, là, ce qu'ils savaient finalement à l'époque, c'est que le nombre de chevaux volés chez les Indiens, par exemple des Grandes Prairies, était 100 fois supérieur à celui des chevaux acquis.
Ah oui.
Donc, selon acquis à l'occasion d'échanges officiels légitimes. Donc, c'est sûr que posséder un cheval à l'époque, c'était vraiment... pour les Indiens, c'est devenu comme un symbole. L'Amérique.
Bien sûr. Et ces guerres, est-ce qu'elles duraient longtemps, en règle générale?
Assez courtes, hein, vraiment. De courte durée, parce que, par exemple, je lisais Champlain, quand les Hurons, par exemple, allaient les attaquer sur leur territoire, c'est 2-3 jours. Hein, puis, c'est pas tous les guerriers aussi qui participaient au combat. Les vaincus, en général, n'étaient jamais exterminés. Puis c'était pas non plus pour les chasser de leur territoire, donc ou la prise de possession des territoires.
D'accord. Oui, je vois. Mais malgré tout, il y a des exceptions ou des batailles qui étaient plus violentes?
Ah oui, ben par exemple, ça, je parlais des Iroquois. Eux, il y avait vraiment une haine viscérale envers les Hurons. Eux étaient dans le sud, les Iroquois, et les Hurons restaient un peu plus dans le nord, dans la baie Georgienne, surtout en Ontario là, actuel. Donc, même si c'était la même famille linguistique, hein, c'était des Iroquois aussi, les Hurons, mais ils étaient différents. Donc, d'ailleurs, les Iroquois les ont presque éliminés. Hein, donc, c'est la présence. En fait, sans la présence des gens en Nouvelle-France, ils n'existeraient plus. Là. Donc, eux, les gens les Français, les Canadiens, les ont tout simplement transportés à Québec pour survivre. Il y a un village Huron, là, maintenant, à Québec.
Ah oui?
Oui, qui fait... Ben, là, c'est sûr, hein, c'est pas beaucoup... c'est très mélangé comme tel, mais...
Bien sûr, oui.
C'est normal, hein. Ils ont été... depuis peut-être 200, 300 ans, là, qui sont à Québec. Là. Donc, c'est les années 1630 autour là, qui sont arrivés. Donc, c'est sûr. Puis, ils ont toujours été les alliés de Québec, hein, naturellement, des Canadiens à l'époque. Là, ça, c'est sûr.
Alors, vous parliez de la violence du peuple Iroquois, qui est assez bien connu. Les Iroquois du Saint-Laurent ont malgré tout eu aussi leur part de malheur, n'est-ce pas?
Absolument. En fait, on parlait des Iroquois tantôt. Ils étaient en guerre presque contre tous leurs voisins. Hein, c'est ça qui est. Puis ils étaient très puissants. C'était des guerriers vraiment courageux. Les Iroquois de Saint-Laurent, c'est toute une histoire aussi. Hein. Quand Jacques Cartier est arrivé en 1534 là, dans la vallée de Saint-Laurent, entre Tadoussac et Montréal, par exemple, il y avait autour de 100 000 Iroquois sur les deux rives du Saint-Laurent. Donc, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui, mais c'est ça. Mais, sauf que 60 d'années plus tard, quand Champlain arrive, en 1608, ils sont tous disparus.
Ah oui?
C'est intéressant. Sauf que quand Champlain arrive, les Algonquins, par exemple, venaient de faire la guerre, venaient de gagner contre les Iroquois. L'explication la plus plausible, c'est que c'est la guerre, justement, entre les Algonquins qui, eux, les auraient repoussés vers le sud de l'Ontario, l'État de New York. Donc, finalement, ils allaient rejoindre les autres nations iroquoises de l'époque, là, de cette époque-là, là, qui avaient un grand territoire. Puis, en fait, c'est pour ça que Champlain a pu établir une colonie française à Québec, parce que Jacques Cartier lui avait essayé, près de Québec, là, qui avait appelé ça Charlebourg-Royal. Il avait établi ça avec 1000 personnes, mais il est parti. Il a passé l'hiver, puis ils sont repartis tout simplement, même peut-être 8-9 mois, parce que c'était impossible d'établir une colonie à côté d'un village iroquois, là, même si c'était des amis, mais les amis, il fallait toujours se méfier, hein, du terme ami, là.
Alors après, par contre, les Iroquois voudraient reprendre le territoire de la Nouvelle-France, n'est-ce pas?
Ils voulaient le reprendre, c'est ça, sauf que Champlain, lui, était l'allié de leurs ennemis, hein, donc les Montagnais, les Algonquins, les Hurons, les Etchemins, hein, qui ont aussi le nom de Malécite, les Etchemins, c'est dans le coin du Maine.
Ah oui.
Les Micmacs, qui, eux, étaient au Nouveau-Brunswick, en fait, toutes les Maritimes, la Gaspésie, tout ça, qui sont encore là, d'ailleurs. Les Iroquois, ils ont attaqué vraiment... presque un siècle, hein, les colons de la Nouvelle-France, et donc ils en ont tué plusieurs centaines pendant un siècle. Ils attaquaient même Trois-Rivières, à un moment donné, a été presque, les gens de Trois-Rivières ont été exterminés deux fois. en fait, tellement que finalement, les autorités pensaient de fermer la Nouvelle-France et de déménager tous ces gens-là en Nouvelle-Orléans.
Donc, vous voyez, ah oui. Ah.
Sauf qu'en 1701, les Français, les Canadiens ont réussi à faire la paix avec les Iroquois,
ouais.
qui ont appelé la Grande Paix de Montréal en 1701. Et après ça, la Nouvelle-France a pu se développer beaucoup.
Alors, Viateur, nous avons vu ensemble donc que les guerres indiennes, en tout cas avant l'arrivée des colons, étaient essentiellement des guerres rituelles. Oui. Par contre, après leur arrivée à ces colons, le concept de guerre de conquête territoriale et d'extermination des ennemis arrive, n'est-ce pas?
Ah, c'est ça, parce que là, il faut qu'ils choisissent leur camp. Hein?
Oui.
Et ça, ça devait être très difficile pour eux. Parce que les Européens y arrivent, surtout les colonies anglo-américaines, ils peuplent très très vite, là. Pendant que nous on était 60 000, ils étaient déjà rendus 1,5 million, eux, donc voyez et c'est sûr que les Anglais, les Indiens, les relations étaient vraiment difficile. Ils appelaient les mangeurs de terre. parce qu'ils s'accaparaient des terres, ce qui était tout le contraire des Français puis des Canadiens, eux.
Oui.
Ils négociaient tout le temps.
Ouais.
Donc, c'est ça. Ben, en fait, l'Amérique devient le prolongement des conflits politiques, hein, puis militaires aussi, dans l'ancien monde, dans l'Europe.
Ouais, de l'Europe,
européen,
ouais.
Hein. Ouais. C'est ça. Et là, ben, on implique les Indiens dans les guerres. Hein. Ils concluent des alliances, ils vendent des armes, de l'alcool. Nous, on était victimes beaucoup parce que les Anglais puis les Hollandais à l'époque, hein, qui possédaient New York puis tout ça, armaient les Iroquois et pour venir nous attaquer. C'est pour ça que ça a été très très difficile là, d'implanter une colonie française ici. Et c'est pour ça qu'on est juste 7-8 millions au lieu de... peut-être 2-3 fois plus.
Eh oui, en effet.
C'est ça. Donc, l'exemple de la conquête, par exemple, de la Nouvelle-France en 1759, c'est vraiment un exemple parfait. Hein. Des milliers d'Indiens qui viennent nous aider à Québec quand les Anglais arrivent, puis de toutes les nations, là, aussi loin que Détroit. Donc, c'est marquant, cette amitié-là qu'on avait, nous. Et les Américains, eux, avaient peur de nous, justement, même si on était très peu nombreux, à cause de notre amitié.
De ce lien, oui.
D'ailleurs, eux, ils appellent la guerre de conquête, la guerre de 7 ans, ils l'appellent la guerre franco-indienne. Donc, vous voyez, dans leur histoire, c'est la guerre franco-indienne. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est sûr qu'après la conquête, là, malheureusement, c'est l'amitié là, qui est disparue, hein, entre les Français et les Indiens, parce qu'on n'avait plus rien à dire.
Oui, bien sûr. Alors, Viateur, pour revenir un petit peu au territoire canadien, est-ce qu'on sait depuis combien de temps les Amérindiens occupent le territoire?
C'est autour de 20 000 ans. Vraiment, là, ils sont venus d'Asie, là, c'est sûr.
C'est ça.
En passant par le détroit de Bering, qui était finalement, qui pouvait passer là, à pied. Et tout.
Ah oui.
Ils vont se disperser à travers l'Amérique. Donc, ils ont trouvé, en fait, ils ont trouvé des traces hein, jusqu'à 10 000 ans, mais d'un dernier mois, là, ça va jusqu'à 20 000 ans finalement. Donc, avec les tests qu'ils peuvent faire. Et, de toute façon, ils en découvrent tout le temps.
Ouais. Donc, on pense que voilà, 20 000 ans à peu près de civilisation ouais. amérindienne sur le continent américain.
Oui, exactement.
La base de l'alimentation des Amérindiens, ça reposait sur quoi? Est-ce que l'on sait?
Ben, en fait, jusqu'à l'an 1000, c'était vraiment la chasse, la pêche et tout ça. Mais ceux qui vivent le long de Saint-Laurent, lui, ils vont commencer à cultiver le maïs. Ils étaient des nomades, finalement, deviennent des agriculteurs sédentaires, hein, et ils cultivaient surtout à l'arrivée de quartier, puis c'était le maïs, la courge, le haricot, hein, donc, et la citrouille aussi, qui était vraiment appréciée là, pour tous les peuples là, amérindiens en général. Là.
Et bien sûr, on le sait, l'arrivée des colons européens a changé beaucoup de choses pour les Amérindiens.
Oui, parce qu'en fait, c'était vraiment une période très sombre pour eux. Hein. D'ailleurs, ils la vivent encore, hein, cette ouais. période-là. Il n'y a rien de pire qu'est-ce qu'on leur a fait comme Européens, comme nouvel occupant. C'était terrible pour eux. Là. Comme on parlait de la conquête britannique, ça a été vraiment un déclencheur. Là, vraiment, parce que quand les États-Unis et les Américains prennent toute l'Amérique, la vie est transformée, puis le Canada a imité les États-Unis, hein, c'est sûr. Hein. Le grand frère, là, eux, ils avaient placé les Indiens dans les réserves, puis ils ont pris leur territoire, ils ont placé des colons européens, puis surtout britanniques, naturellement. Ici, c'était vraiment... ils allaient chercher dans l'Ouest, mais là, c'est l'Ontario, ici, c'était plus britannique, puis après... dans l'Ouest, là, c'était des Ukrainiens, des Allemands, donc tout ça qui sont devenus finalement anglophones, naturellement. Oui. Et c'est sûr que placer des gens dans des petites réserves, hein, c'est la plus grande erreur là, de ces deux pays-là. Félix Sittler, lui, il a fait une chanson, je ne sais pas si vous connaissez Félix Sittler.
Oui, le grand chanteur québécois.
C'est ça, c'est qui est notre chansonnier national, finalement. Ouais. Il disait que la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Et c'est un peu ça, là, qui est arrivé. Il leur donne une pension, puis finalement, ils n'ont plus rien à faire. Donc, c'est l'alcool qui s'y met, les drogues peu à peu. Donc, ils n'ont pas de but. Hein. C'est ça, les jeunes, malheureusement, amérindiens. Là, moi, j'ai demeuré sur la Côte-Nord, comme à Sept-Îles, et puis à Clark-City à l'époque, là, les années 50. Les Indiens... c'est l'alcool, hein, puis c'est encore pire aujourd'hui. Même s'ils peuvent s'instruire, souvent, ils décrochent tout simplement parce que c'est rien qui est adapté à eux. Hein, c'est le désir, avoir un but, hein, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Et eux, ils n'ont plus de but, là, tout simplement. Heureusement, il y en a qui s'en sortent, hein, des médecins maintenant. Je sais qu'au Québec, là, ça, il y a des comme les cris, par exemple, de la baie de James, avec le développement de la baie de James du côté du Québec, ces Indiens-là sont riches, là, tout simplement, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent, mais ils développent des compagnies et tout ça. Mais si, par exemple, on voit les cris de l'autre côté de la baie de James, eux, ils vivent au tiers-monde, carrément.
Ouais,
c'est très, très différent. Donc, eux, ils ont réussi à s'en sortir pas mal mieux, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, finalement.
Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'évoquer de nouveau le destin des peuples autochtones et peut-être de ces questions de réserve avec vous, Viateur. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette question des guerres entre les Indiens d'Amérique aujourd'hui sur les ondes de Choc FM 105.1.
Avec grand plaisir.